Bienvenue
sur J'enrage, votre émission. Lilloise.
Bonjour, vous êtes bien sûr J'enrage, l'émission féministe de la métropole lilloise, donc vous êtes sur RCV 99FM. On est le dimanche 1er décembre, il est 16h. C'est Anaëlle qui vous parle, je suis avec Zab.
Salut.
Avec Suzanne.
Salut.
Et avec Lucille Ruault.
Salut.
Donc voilà, avec Lucille Ruault, nous allons présenter une émission qu'on a intitulée Contraception, avortement et nouvelle médicalisation des corps, nouvelle technique de médicalisation des corps, pardon. Donc en première partie de l'émission, on va revenir sur les quatre documentaires « Un enfant si je veux, quand je veux » que coproduit Lucille, c'est ça ?
Produit.
J'aimerais bien les avoir.
non, je sais plus.
C'est organisé.
Oui, c'est ça, voilà.
Avec mon coup, que je coordonne.
On peut peut-être présenter Lucille ?
Ouais, oui, c'est... je vais te laisser te présenter et on verra, on fera le programme de l'émission au fur et à mesure.
D'accord. Je fais une thèse en sociologie politique sur les mouvements de femmes qui sont organisés dans le domaine de la santé dans les années 70. Et du coup, je m'appuie d'abord sur des groupes de femmes qui faisaient des avortements clandestins et qui avaient toute une réflexion sur la contraception, sur la libre maternité dans ces années-là. Et donc, entre autres, les MLAC, mais je pense qu'on en reparlera.
Et donc, tu es coordinatrice as organisé.
Ouais, voilà. Donc, avec Marie Mathieu, qui elle aussi fait une thèse sur l'avortement aujourd'hui, on organise ce cycle de projection donc, au cinéma L'Univers dans le quartier Moulin depuis juin 2013.
Donc, cycle qui s'appelle Un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux.
Ouais.
Pour rappel, donc, dans ce cycle, il y avait le documentaire Histoire d'A, ouais. qui avait été diffusé le 15 juin. Mmh. La des rétrospermato.
Qui a été diffusée le 19 septembre.
Voilà. Regarde, elle a les yeux grands ouverts qui vient de passer.
Ouais, il y a deux semaines.
Et L'arbre et le nid qui est programmé pour janvier.
Voilà, fin janvier. Il me semble que c'est le 28. Donc tout ça à l'univers. Donc l'idée, voilà, c'était de faire une espèce de tour de la question, alors qu'il ne se veut pas du tout exhaustif, hein, mais sur ces luttes autour de la disposition des corps de femmes. Et alors petite précision tant que j'y suis, donc voilà, on avait ces trois films dont deux, Histoire d'A et Regarde à la Légion Grand Ouvert, qui portaient sur ces luttes clandestines avant la loi Veil autour de l'avortement, et Vade Retrospermato, je pense qu'on en reparlera aussi, mais qui portait sur les groupes d'hommes qui réfléchissaient à la contraception masculine dans les années 70 et 80. Et puis on termine par L'arbre et le nid. C'est pas du tout une volonté idéologique de terminer par la maternité comme aboutissement, puisque L'arbre et le nid porte sur les pratiques d'accouchement dites alternatives, donc soit en maison de naissance, soit même à domicile. Et voilà. Mais il n'y a pas du tout l'idée d'une évolution dans ce cycle avec la fin qui serait le bel accouchement. Ce sont juste des contraintes de calendrier, tout simplement. Mais précisions importantes.
voilà, on ne va pas arriver à une idéologie... anti-malthusienne.
Ce serait le comble.
Voilà.
Du coup, on va revenir sur les documentaires. Donc, le premier qui était Histoire d'A, tu peux peut-être le présenter et puis on reviendra dessus rapidement.
Donc, c'est un documentaire qui a été réalisé par Charles Belmont et Marie-Alice Hertel. Donc deux personnes, enfin un couple qui était dans un black parisien, et donc ils l'ont réalisé en 1973. Alors c'est un film qui a été censuré dès sa sortie, donc il y a toute une grosse charge symbolique derrière ces bobines qu'on avait, puisque voilà, elles ont traîné dans plein de caves et de greniers parce qu'il a circulé clandestinement, et donc il portait vraiment sur ces groupes black parisiens dans lesquels les médecins qui s'engageaient pratiquaient des avortements clandestinement, était accompagné par des femmes, mais qui, elles, se chargeaient plutôt de l'accompagnement, on va dire, moral et relationnel pendant ces avortements. Voilà. Avec toute une réflexion aussi sur les inégalités sociales d'accès à l'avortement en toile de fond du film.
Oui, donc moi je l'ai vu, donc on n'a pas vu tous les documentaires, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé vraiment intéressant. Un truc très important du documentaire, c'est aussi le fait qu'on voit une procédure, enfin du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais. La prise en charge au départ avec le médecin qui informe la patiente, ou je sais pas si on doit l'appeler patiente du coup.
L'usagère, je pense qu'il.
Ouais, voilà, c'est ça. À mon avis, c'est pas la patiente le mot adéquat, mais en gros, ouais, qui lui explique comment ça va se passer, qui lui fait toucher la
canule,
etc. Et après, comment l'avortement se déroule, quoi. C'est vraiment intéressant, on voit jamais ça, quoi.
Ouais, et puis même, alors que ce soit la scène de préparation à l'avortement qui, en effet, aujourd'hui n'existe plus. Enfin, on me trouve une femme à qui on a expliqué avant l'avortement exactement comment ça se passe, l'aspiration. Et puis, voir une scène d'avortement. C'est-à-dire que récemment ont été réalisés d'autres films sur l'avortement, les IVG, aujourd'hui dans des centres hospitaliers. Et dans ces films, on ne montre plus d'avortement. Voilà, donc il y a quand même un enjeu de visibilisation et de ce que ça signifie beaucoup sur...
La réappropriation des techniques, en fait.
Ouais, et puis...
Des savoirs,
réappropriation, et puis l'idée de montrer, mettre en image et en mots. Alors en mots c'est possible, mais en image on a l'impression qu'aujourd'hui ce serait plus possible. Et les réactions qu'on a eues du public après la projection, c'était vraiment un moment de l'avortement.
C'est intéressant parce que il me semble qu'on en avait débattu quand on avait réfléchi, quand on avait pensé et repensé à ces trucs, qu'on avait débattu entre nous, mais on s'était dit qu'il n'y avait pas dans les justement de représentation, même dans les médias, dans les séries, les téléfilms, etc., de l'avortement, que ça reste quand même une image, une scène, presque
Qui
une scène
tabou,
en fait,
qui reste fantasmée. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Avortement. Ouais. Donc, alors que les scènes d'accouchement, en revanche, sont
bien sûr,
mais elles sont très stéréotypées, mais
elles sont montrées,
Oui, c'est une question qu'on doit poser. Ouais, est-ce que, enfin, je me souviens qu'on l'avait posée. Est-ce que l'avortement est tabou encore Enfin, comment est représenté l'avortement? Et je me souviens qu'on s'était rendu compte quand même que, bon, en France, il me semble qu'on en avait parlé, c'était un peu différent, mais dans les séries américaines, c'est tout. La question est toujours posée. Mmh. Donc, les séries qui sont centrées sur des femmes, il y a toujours, à un moment donné, la question de je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? J'en voulais pas au départ, quoi. Donc, il y a la question de l'avortement. Et c'est toujours, c'est une position pro-life, quoi, au final, parce qu'elles finissent toujours par le garder, ou presque toujours, quoi.
Ouais.
C'est un gros problème. Mais qu'en France, c'est vrai qu'il y avait peut-être. C'était peut-être.
Moi, je pense à Desperate Housewives. Pardon.
Non, mais si, c'est
dans,
ça.
Parce que là, on est dans les bonnes petites séries pour ménagères, là. Pardon, c'est pas très féministe ce que je veux dire. Désolée. Et puis, bref, passons.
Non, mais okay. C'est ça, si,
dans
cette série.
Des modèles, des modèles de. Comment dire de devenir mère, de devenir femme, même dans le sens idéologique du terme, devenir femme, c'est aussi peut-être ça. Et donc, qui passe par l'acceptation de l'enfant
à venir, quoi.
À venir. Bon, bref, là, on a un petit peu pris un autre chemin.
Et donc, pour revenir peut-être sur le documentaire avant de passer à un autre documentaire, c'est un documentaire qui était très intéressant aussi parce qu'il montrait les interrogations des groupes qui s'étaient formés à cette époque-là pour justement lutter. Comment lutter? Pourquoi? Enfin, l'intérêt de développer un accès un peu plus libre à la fois aux méthodes contraceptives et à l'avortement, etc. Quoi. C'était vraiment le point central du documentaire, je pense, et c'était très bien montré.
Et on l'a dit que c'était avec la méthode Karma.
Oui, voilà.
Comment est-ce qu'elle fonctionnait, cette méthode, justement?
Ouais, ça, on l'a pas encore abordé. Oui, alors, donc, il y a toute cette idée que... notamment dans ces scènes aussi fantasmées d'avortement avec tous ces dangers fantasmés autour de l'avortement, bien sûr c'est relié à une histoire évidemment dramatique des avortements qui pendant une bonne période est pratiquée soit dans une forme d'auto-avortement par des femmes, par de multiples techniques, on connaît l'histoire des aiguilles à tricoter et puis de bien d'autres instruments ou plantes. Alors que, donc, en 1972, la méthode Karma arrive en France. Alors, elle est en quelque sorte redécouverte par des collectifs grenoblois et parisiens au même moment, parce qu'un psychologue américain, donc, qui s'appelle Harvey Karman, diffuse cette pratique qui est en fait est expérimentée à l'origine en Chine. Par des médecins qui intervenaient dans des catégories populaires. Et donc lui, il la perfectionne et il l'apporte en France. Et c'est à partir de là que justement se met en place le MLAC, donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et en fait, cette pratique, alors ça, c'est aussi Bibia Pavard qui l'a très bien montré dans ses travaux, et elle montre vraiment que, ce qu'elle dit, c'est que la méthode Karman fait mouvement. Ça signifie très clairement qu'elle permet la rencontre entre les milieux féministes et des médecins engagés, des médecins gauchistes, entre des idées politiques et une expertise médicale, puisqu'en fait, cette méthode... elle simplifiait, elle faisait de l'avortement un acte très simple, non dangereux. Donc, en gros, il s'agit encore, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans les hôpitaux, on utilise cette méthode par aspiration, de vider le contenu de l'utérus à l'aide de canules souples, donc qui ne peuvent pas transpercer l'utérus. Et l'aspiration se faisait, alors c'est ça qui est plutôt amusant, par une pompe à vélo, une pompe à vélo inversée, une pompe à eau ou un moteur de frigo qui actionnait l'aspiration. Donc voilà, c'était tout ce bricolage qui était effectué alors de façon très sérieuse et très experte, avec cette idée d'asepsie et de transmission de pratiques vraiment maîtrisées. Mais du coup, cette méthode, voilà, elle a vraiment accompagné ce combat politique. Elle est indispensable pour comprendre.
Tu me fais penser, du coup, justement, en parlant du fait que c'était la rencontre de féministes et de médecins gauchistes, que le documentaire montre aussi comment s'organise un contre-discours, parce que justement, il y a une espèce de propagande qui vise à une propagande pro-life qui vise à diaboliser l'avortement à cette époque-là, à montrer que si ça fait absolument mal, parce que c'est pas possible, ça paraît carrément improbable pour pour en France à cette époque-là que l'avortement puisse être non douloureux, par exemple. Et ça, c'est vraiment un contre-discours qui s'organise et ça le montre bien aussi.
Ouais, et puis ce contre-discours, j'ai presque envie de dire qu'il va pas, même pas s'encombrer presque d'une réflexion sur la douleur. Il va plus se focaliser sur les craintes morales.
Oui.
Avec cette idée que la décadence des mœurs, toute émancipation des femmes qui mettrait en cause l'équilibre social, les craintes démographiques qui restent importantes, hein, l'idée de, il faut vraiment que ces femmes elles continuent à pondre. Et voilà, donc Laissez les vivre, ils se forment en 1970. Hein, donc le contre-discours, en fait, il se forme assez tôt. En plus, il est exacerbé au moment des différents événements qui marquent ces années-là, c'est-à-dire la publication du manifeste des 343 en 71, dont on a entendu parler récemment pour d'autres causes. le procès de Bobigny en 72. Et voilà, et en fait, et ce contre-discours va plutôt s'organiser autour de ces craintes très conservatrices et moralistes, plus que sur la douleur et les dangers.
Oui, non, c'est un exemple que je prenais.
Mais c'est hyper intéressant finalement d'analyser ces discours, je ne sais pas si on peut dire pro-life, si c'est anachronique de dire pro-life.
Moi, je dirais plutôt anti-choix, politiquement.
Anti-choix, voilà. En tout cas, ces discours... anti-choix, voilà, de les étudier parce qu'on se rend bien compte que finalement les luttes pour la libéralisation de la contraception et le droit à l'avortement s'accompagnent d'une réappropriation des corps qui sont en fait pris idéologiquement dans des politiques, enfin je veux dire dans des politiques démographiques, dans les politiques familialistes, c'est-à-dire comme tu dis, il faut continuer à pondre, il faut aussi continuer à être réapproprié dans le cadre d'une famille avec patriarcale, avec un pater familias, c'est un peu anachronique aussi parce que là c'est plus la Rome antique, mais bref, un patriarche, une bonne mère, et puis tout ça c'était juste pour évoquer un petit peu le cadre idéologique, mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte du coup à quel point c'est aussi important, ça a été important et ça l'est toujours pour raisons qui se démultiplient, mais
c'est un discours qui se recompose constamment, et en effet on pourrait se consacrer seulement à l'étude de ce discours, et je pense que par rapport à ce que tu disais, enfin sur l'évolution de ce discours, en effet aujourd'hui bon, après, c'est une vision parmi d'autres, mais on peut se demander si ces discours-là ne se focalisent pas sur, justement, les dangers avec l'entretien de toute une idéologie sur la nocivité physique et puis surtout psychologique des avortements.
Oui, les séquelles.
Sur les séquelles. Et ce que tu disais, en fait, voilà, ça serait peut-être plus contemporain que, dans les années 70-80, c'était plutôt, on ne veut pas cet avortement parce que juste on ne remet pas en cause la vie avec une conception très traditionnaliste de la vie, plus que sur les dangers. Parce qu'après tout, s'il se focalisait vraiment sur ces dangers envers les corps, il serait peut-être soucié des milliers de morts de femmes par an pour cause d'avortement clandestin.
Enfin, tout à fait.
Bien sûr. Ouais.
Oui, c'est aussi finalement comment être pragmatique. C'était ça au départ, je pense. C'est pour ça aussi que c'était des médecins qui se sont, groupés autour de des questions d'avortement. Quoi.
Ouais.
C'était une réaction pragmatique à. Il y a des dangers sanitaires, ou je sais pas comment les appeler, parce qu'il y a des avortements qui sont pratiqués pas dans des bonnes conditions. Quoi.
Ouais. Voilà.
C'est ça, les arguments pro-life, s'ils portaient sur la douleur, ils auraient pu être tournés contre eux, en fait, parce que justement, en prenant en compte toutes les femmes qui sont mortes dans des avortements clandestins, finalement, l'argument tenait plus, en fait.
Enfin, ouais.
J'ai eu peur que tu dises autre chose. J'ai eu peur que tu dises, oui, en fait, l'avortement, ça pourrait être proposé comme une alternative à l'accouchement qui est douloureux, quoi.
Ah non.
Enfin, bref. Non. Et on va peut-être faire une petite pause. On va vous mettre une chanson qu'on avait voulu mettre dans la dernière émission et qu'on n'avait pas eu le temps de mettre, qui s'appelle Suzy Quattro. Ça c'est le nom du groupe. Et la chanson s'appelle Devil Gate Drive. Elle date de 1974. Le nom de l'album, c'est Quattro, tout simplement, comme le nom de la chanteuse qui est aussi la bassiste du groupe. Voilà, à tout de suite.
Devil Gate Drive. Yeah! We'll kill them all.
Nous sommes de retour sur Genrage, donc c'est toujours 99 FM, ouais, sur RCV. On est toujours avec Lucille Ruault et nous allons revenir maintenant sur le deuxième documentaire, donc qui s'appelle Va des rétrospermato. Et pour le présenter, je passe la parole à Suzanne.
Ok, merci Annelle. Voilà, du coup, Va des rétrospermato. J'étais allée à la projection, c'était plutôt intéressant. Et donc c'est un film de Philippe Lunaire.
Lumière.
Et qui donc présente en fait des groupes de paroles masculins qui ont été impulsés à la suite de des groupes de paroles de femmes des années 70 et donc du coup qui ont plutôt été développés, c'est bizarre de parler comme ça, mais dans les années 80, c'est-à-dire un petit peu
fin 70 jusqu'au début des années 80.
Voilà, on va dire qu'ils les ont suivis en fait, ils n'ont pas impulsé le premier mouvement. Enfin voilà, se sont basés un petit peu sur ce modèle de non-mixité, on va dire. Et voilà, et qui présente donc, on va dire, une forme de conscientisation de leurs conditions. Ils parlent pas énormément de rapports de domination. il me semble.
Pas assez, sans doute.
C'est... Ouais, ouais. En tout cas, ouais, ils prennent pas vraiment le prisme de la domination dans leur, leur spectre d'analyse, on va dire, mais plutôt de remise en question
De
leur rôle, voilà, de la
de responsabilité dans,
voilà, exactement.
Dans le contrôle des naissances.
Voilà, ouais. de leur devoir de responsabilité, exactement. Ouais. De leur implication... l'implication dans le contrôle des naissances, dans le fait que ce ne sont pas co-femmes, et sous-entendu à leurs femmes, parce qu'en général,
la spécificité de ces méthodes-là aussi dans ce film, c'est qu'elles s'appliquent plutôt à des contextes de conjugalité exclusive, enfin les méthodes dont on a parlé.
Voilà.
Alors que le gros paradoxe dans ce film, c'est qu'il ne parle pas de préservatif. C'est là on est sur des questions aussi historiques, on est avant l'arrivée du sida, et mais donc il se focalise sur essentiellement deux méthodes de contraception, donc les contraceptions hormonales sous deux formes, soit les injectables, alors je crois que c'était pas mensuel, ça devait être tous les 3 mois, soit par gel à appliquer sur le corps et qui permettait de stériliser momentanément ces hommes, ou alors ils prenaient l'usage de ce qu'ils appelaient le remonte-couille toulousain. Alors on avait réussi à peu près à retrouver le terme, c'est la méthode hypothermique, c'est l'idée de réchauffer les testicules pour stopper la production de spermatozoïdes.
Exactement, ouais.
Voilà. Puis avec toute une réflexion en effet sur cette responsabilité et puis sur l'idée de toucher à leur corps.
Ouais, exactement. Ouais.
Qui est peut-être central aussi.
Ça, c'était intéressant. Ouais. C'est-à-dire, finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont parlé du roman de couilles toulousain, la plupart des gens dans la salle se sont mis à rire, parce que c'est vrai qu'il y a un côté complètement, comment dire, un peu ridicule,
oui,
quoi, dans le nom,
en plus,
dans le
ils
terme.
Ils assument le nom.
Mais ils assument en fait ce ridicule, parce que précisément, j'ai l'impression, et c'est ça qui est plutôt chouette, je pense, c'est que ils se rendent compte que bon, je sais pas, ils le disent pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que beaucoup de prises en charge sont finalement pris en charge par les femmes, et donc pour une fois le ridicule il est un petit peu pour eux, quoi, un peu pour leurs pommes, j'ai envie de dire. Ça n'est pas une question de, enfin c'est une façon un petit peu une forme d'autodérision qu'ils assument en fait, et de pas le voir comme ridicule, mais quelque chose qui est tout à fait, enfin qu'ils ont normalisé, puisque aussi bien que ils disent voilà, la contraception masculine existe, elle fonctionne aussi bien que celle prescrite pour les femmes, et on n'en parle pas, on était très très peu à en prendre, ils étaient 200, ils disaient, dans les années 80.
Oui, mais moi je crois que c'est... Oui, ils disaient que ça se comptait plutôt une centaine.
Ouais.
Alors, par rapport à ce que tu dis, finalement, enfin, le côté ridicule, c'est aussi nos représentations. Enfin,
bien sûr.
En effet,
mais,
voilà.
Bien sûr.
Et est-ce que...
Oui, c'est vrai que j'aurais dû présenter
comme
ça.
Non, mais je pense qu'on a bien compris, mais l'idée, c'est voilà, est-ce que ce serait pas ridicule de penser à se mettre un bout de fil de cuivre dans l'utérus?
Alors, ah non, mais ça n'est...
Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans leur, dans leur façon d'assumer l'idée de remonte-couille toulousain. C'était pour en fait compléter ce que tu disais. Il y a l'idée que, de toute façon, d'emblée, le fait de toucher à leur spermatozoïde, c'est considéré par l'ensemble du corps social comme quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être. Puisqu'après tout, comme on nous le rappelle, les médecins comme les femmes, ce ne sont pas eux qui portent les enfants. Alors que dans cette idée-là, c'est de montrer l'appellation remonte-couille toulousain, de toute façon, le fait de toucher leur appareil génital, ça va d'emblée être perçu comme quelque chose de dégradant. Et du coup, en miroir, ça nous dit plein de choses sur ce qu'on fait aux femmes, en effet.
À fond. Non, mais c'est, ouais. Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est exactement. Et je pense que ça peut nous faire rebondir sur ce dont on voulait débattre aujourd'hui, à savoir la médicalisation des corps, aussi en fin d'émission. C'est-à-dire que finalement, ce qui était assez surprenant, c'est de voir de voir à quel point un corps d'homme est intouchable. Est intouchable, doit être intouchable, il doit être impénétrable également. Enfin, ça. Et. Donc du coup, ça, comment dire, le fait de prendre des hormones, ça évoque des, ça évoque quoi comme comme peur chez les femmes. On se pose pas beaucoup de pour la, la contraception, on se pose pas beaucoup cette question-là. Là, c'est la peur de l'impuissance, la peur de donc de une défaillance érectile parce qu'il faut bien bander quoi. La peur de la peur de stérilité, je sais plus si c'est vraiment la question qui est posée, mais c'est intéressant. Je trouvais que c'était intéressant de voir les représentations de la masculinité en rapport justement avec de la masculinité opérationnelle, parce que c'est presque de cette performance de masculinité. C'est assez intéressant de voir les.
En plus, pour l'anecdote, pas de bol, cette espèce de gel là, hormonal qui pouvait s'appliquer s'ils n'utilisaient pas le hormone coutoulzin qui choisissait la méthode hormonale. Donner des poils à leur partenaire féminine. Donc, ah mince, encore quelque chose qu'il nous faut pas dans ce système.
Oui, parce là, que c'est par contact, en fait, tout simplement.
Oui, par contact de peau.
Parce qu'en plus, la pilule chez les femmes peut provoquer parfois des baisses de libido ou en tout cas des variations dans la libido chez les femmes. Et on se pose pas la question quand on prescrit une pilule à une femme.
Voilà, c'est ça. En fait, justement, je voulais en parler, c'est très bien. Finalement, les corps, la sexualité des femmes est prise en charge d'un point de vue purement, de la fécondité, quoi, en gros.
Technique.
Alors que oui, c'est ça, exactement. C'est avortement et contraception, en gros, c'est ça, c'est les deux.
Ouais. Bah, j'irais même, c'est tout de considérer ce corps des femmes et leur appareil génital comme le lieu
reproductif
du risque. Enfin. Comme un lieu de danger aussi. C'est-à-dire que même l'avortement, il est vu comme
une prise de risque.
Voilà, la grossesse est un risque, est un danger. L'avortement est encore plus dangereux. Mmh. Alors, on pourrait revenir en plus sur les dangers de l'accouchement comparativement aux dangers de l'avortement, qui sont éminemment plus nombreux. Et puis voilà, bon, c'est toute l'appréhension gynécologie des corps de femmes. Voilà, elles viennent et. Elles sont un danger potentiel constamment. On pourrait aussi parler de la détection du papillomavirus chez les femmes et se demander pourquoi la médecine n'essaie pas de le détecter chez les hommes.
Le papillomavirus ?
Oui, c'est le ou le ou
en tout oui, cas, alors que c'est eux qui sont porteurs quoi.
C'est ce qui est détecté par les frottis. Fameux frottis qui est fait dans les cabinets de gynéco ou aussi dans les cabinets généralistes. C'est tout un procédé préventif autour de ça et qui justifie auprès des femmes le rendez-vous, le suivi gynécologique. Et donc, c'est cette idée de détecter et de sonder la santé sexuelle des populations sur
les
corps de femmes, donc sur les une classe de sexe, en fait. Et donc, c'est par leur corps qu'on peut comprendre où en est l'état de santé sexuelle et surtout, bien sûr, la santé reproductive de la population.
Ouais, donc, pour moi, du coup, là, il y a deux choses. C'est des questions qu'on ne peut pas
dissocier.
Séparer.
Oui.
Mais il y a d'un côté le fait qu'il y ait une asymétrie, comme tu disais, parce que c'est toute la sexualité de l'ensemble de la société, la sexualité hétérosexuelle, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et sondés seulement à travers le cœur des femmes.
Ouais.
Et du coup, ça entraîne. Donc voilà, il y a cette asymétrie-là. Et il y a le fait que le corps des femmes est pris en charge de ce que je disais moi, plutôt d'un point de vue de la fécondité. Alors que la sexualité des hommes, quand elle est prise en charge, c'est tout de suite la performance qui est. La question de la performance qui est posée quoi et à côté ça le fait que ce soit donc ce que tu disais dans le système hétérosexuel on va dire ça entraîne une médicalisation super développée du corps des femmes quoi.
Oui et au point que là on parle du régime hétérosexuel mais c'est au point que on a un certain nombre de témoignages de femmes lesbiennes qui sortent des cabinets de gynécologie en disant mais il a fallu que je me batte pour pas avoir cette pilule. Les commentaires sont légion là-dessus, mais cette idée que tout corps de femme doit être hormoné, accompagné hormonalement, sans se poser la question des effets, sans se poser la question de l'utilité. Et puis, après tout, qu'on soit, même dans des relations hétérosexuelles, on ne pose pas la question de l'utilité ou pas de telle méthode en fonction pêle-mêle de la fréquence des rapports sexuels, de la nature de ces rapports sexuels. et puis plein d'autres éléments, et aussi des conditions sociales de vie qui ne sont pas prises en compte dans les études de médecine sur la contraception et l'avortement.
J'avais d'ailleurs lu un article de Socio là-dessus qui reprenait le fait que la question de l'avortement et de la contraception, depuis qu'il était dépénalisé, servait via les médecins et via le contrôle comme ça du corps des femmes, etc., de surveillance, en fait, de nouvelles surveillances étatiques, justement. Et je trouve ça intéressant, par des médecins, donc qui sont pas des fonctionnaires, en fait, enfin qui prennent un rôle là de représentants de l'État dans la surveillance médicale du corps des femmes, alors que en fait, enfin normalement, c'est pas leur rôle, quoi.
Bah, en même temps, très clairement, la loi Veil, donc qui est promulguée en janvier 1975, c'est une loi de compromis et c'est une loi d'encadrement médical. C'est-à-dire tous les groupes dont on a parlé, là, les MLAC, donc faisaient ces avortements ou entre femmes ou avec des médecins de façon illégale. Et la loi Veil, c'était très clairement mettre un coup d'arrêt à cette pratique clandestine. Et donc l'idée, c'était de déléguer cette pratique au corps médical. Et donc là, très clairement aussi, le corps médical se fait agent étatique, agent de surveillance, et aussi avec l'idée de contenir très clairement aussi dans la loi, de contenir l'avortement grâce au corps médical.
Ouais, mais l'article parlait de pratiques récentes, en fait. Enfin, c'est encore une question vachement actuelle. Et c'était, enfin, c'est un article qui est récent, enfin, qui date du 21e siècle.
Mais, cette loi, bien sûr. Les termes de la loi restent les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu différents. Enfin, la loi la réforme de 2001 a permis d'assouplir l'accès à l'avortement. Le cadre de cette loi qui dit que tout avortement doit être pratiqué par des médecins, et même pas par des sages-femmes. Hein. Seuls des médecins sont habilités.
C'est une espèce de passation de pouvoir, quoi.
Voilà.
Je contrôle mon propre corps, ou en tout cas je délègue parce que tu peux pas non plus intervenir toi-même sur ton corps pour faire un t'auto-avorter, quoi. Forcément, il y a une délégation de pouvoir, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Là, c'est vraiment une passation.
Oui, c'est la remise entre les mains du corps médical de cet acte-là, pour le contrôler.
Moi, j'aimerais bien revenir deux petites secondes sur un truc que tu as dit, justement, quand tu parlais des dangers, finalement, les dangers de l'accouchement, qui sont jamais... évoqués, voilà. Et pareil pour la pilule, finalement. En plus, il y a eu des polémiques suite à la pilule de la troisième génération. C'est vrai qu'on met jamais ça en perspective. Finalement, le fait de donner autant d'hormones au corps, et dans quelle modalité aussi, ça peut poser un risque, quoi, finalement.
Oui, mais en même temps, c'est à relier avec toi, pas tout ce qu'on a dit.
Ce que je voulais dire, c'est
en trois minutes, les filles.
Si les corps ne sont pas pris en charge, ça pose un danger, mais jamais on se pose la question inverse. Cette prise en charge est dangereuse, finalement, aussi, quoi.
Oui, puis avec tout ce qu'on appelle ces risques iatrogènes de la médecine. Oui. Alors, l'iatrogénie, c'est l'idée que la médecine produit des problèmes, elle aussi, et contribue à la production de maladies. Oui, c'est pas posé, mais c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est avec cette idée très contemporaine de corps de femmes qui doivent être... hormonés, constamment fournis en hormones, y a cette idée implicite que la pilule, tout comme le traitement hormonal de la ménopause, parce que le traitement hormonal de la ménopause, d'une certaine façon, il prend le relais sur cette médicalisation constante des corps.
Moi, j'aurais pas un discours aussi, personnellement, qui aussi critique vis-à-vis de la médicalisation, dans la mesure où... faut pas non plus tomber dans une espèce d'idéal d'une nature, enfin d'un corps ça qui serait sans hormones, qui serait un corps naturel. C'est pas la question, bien sûr. Non, mais c'est juste que du coup, moi j'ai eu l'impression d'entendre ça à un moment donné, et du coup c'est ça qui, alors que je sais très bien que c'est pas du tout l'objet du débat, quoi. Oui.
L'objet du débat serait plutôt sur une pluralité de choix. Que ce soit dans les manières d'avorter, de se contracepter, d'accoucher aussi, puisqu'on a abordé le sujet, et tout simplement, plus généralement, de maîtriser sa santé et son corps. Voilà, c'est-à-dire cette idée de choix, et qui, elle me semble, on n'a pas dans ces cabinets médicaux.
C'est intéressant ce que tu disais, le fait que tu parles de pluralité de choix et de pas avoir le choix, etc. Je pense que le problème aussi, c'est ce qui a été fait pendant ces mouvements-là, c'est la, enfin pas la, une démocratisation, mais il y avait un savoir qui était partagé, qui est maintenant l'apanage de, enfin du corps médical. Et nous, on n'est plus, enfin si on est informé, heureusement. D'ailleurs, il y a des associations qui servent à ça, comme le planning familial. Heureusement qu'elles sont, enfin que ces assos existent, quoi. Mais il y a ce problème de, enfin il y a une lacune de nos savoirs, enfin de l'ensemble de la société, savoir que contrôle, enfin que possède seulement les corps médicaux vis-à-vis de la sexualité, de comment la prendre en charge, etc. Et je pense que c'est aussi un des problèmes, c'est aussi pour la raison pour laquelle il y a une médicalisation comme ça, et que en gros on laisse nos corps sans se poser de questions être hormonés et toutes ces questions là quoi.
Puis si les gynécos étaient féministes, ça saurait, hein. Alors, je pense s'ils étaient dans leur ensemble.
Oui, bah là on est vraiment sur la question de l'autonomie et du monopole laissé au médical. Et puis en plus, bon, on l'a vu là, je pense que vu la largesse des sujets abordés, on est sur cette remise de soi intégrale au médical. Mais parce que très clairement, enfin c'est ce que tu as dit, le reflux des groupes militants dans les années 80, et puis aussi la loi Veil, mais d'autres formes de passation de pouvoir aux médecins ont éteint ces mouvements de subversion et de réflexion qui se disaient une réflexion radicale sur les corps et sur la santé. Et du coup, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur la question de l'avortement aujourd'hui, sur la question de la contraception, sur la question de l'accouchement, en fait, je reviens à ces trois éléments qui sont importants pour notre cycle de projection, on n'a plus vraiment cette réflexion entre profanes sur ce qu'on fait à nos corps.
Oui.
Et cette réflexion, elle est laissée aux experts, au pouvoir médical, pour reprendre les mots de ces années 70 sur la contestation de la morale médicale, puisque, par exemple, sur les moyens d'avortement, il y a bien longtemps qu'on ne pose plus la question des délais. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ? Alors certes, en 2001, on est passé de l'accès à l'avortement à de 10 semaines à 12 semaines de grossesse. D'accord, mais est-ce qu'on les a reposés depuis ? Entre-temps, l'avortement médicamenteux est arrivé. Mais est-ce qu'on trouve une réflexion parmi les non-médecins autour de l'isolement des femmes lorsqu'elles utilisent le RU486, donc c'est-à-dire l'avortement chez elles avec un médicament. Est-ce qu'on pose la question des techniques ? Alors on parlait entre nous tout à l'heure des bouquins de Martin Winkler qui pose régulièrement la question de ce que font donc les médecins en cabinet, des instruments médicaux, hein, les instruments qui font mal au col de l'utérus, les pinces qui font moins mal, les produits pharmacologiques utilisés, les positions gynécologiques. Et ce qui est fait dans les salles d'avortement, on disait aussi tout à l'heure qu'on ne voyait pas d'avortement. Et donc, on ne peut pas vraiment poser cette question de est-ce qu'on devrait remettre en cause, réfléchir, subvertir les pratiques autour de l'avortement. Voilà, donc c'est tout ce qu'a éteint aussi cette prise en charge légale et médicale.
Et c'est le problème de l'institutionnalisation, une certaine forme d'institutionnalisation du féminisme, qui est d'une tête entre heureuse et malheureuse, on va dire. Enfin, d'une certaine manière, c'est aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été incorporées, en fait, justement, incorporées. Mais c'est aussi, du coup, peut-être mettre fin à toute réflexivité et toute autocritique, parce que un corps médical, sont des agents de l'État et des agents d'une qui n'ont pas cette dimension politique.
Oui, et puis avec plein d'enjeux corporatistes et de batailles internes. Et puis on parlait tout à l'heure du planning, mais finalement je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a plus de lutte autour de l'avortement. Il y en a, mais ces luttes, elles se focalisent sur les questions prioritaires, c'est-à-dire la fermeture des centres d'IVG, le planning a encore fait un communiqué de presse récemment pour dire que 130 centres avaient été fermés en 10 ans, que ces fermetures de centres en plus s'inscrivent dans un constat général des réformes médicales depuis 2008 avec le démantèlement du système de santé, donc il y a toute une réflexion plus large. Le fait aussi qu'il y ait des grosses difficultés de recrutement de personnel médical acceptant de faire ces avortements, puisque l'avortement reste un acte très peu gratifiant, dévalorisant, un acte technique simple et que peu veulent bien effectuer. Donc le planning et d'autres instances, comme je dirais Suzanne, institutionnelles, se focalisent sur l'accès et les inégalités sociales d'accès à l'avortement, plutôt que sur la pratique en elle-même, Peut-être éventuellement reposer la question d'un élargissement des personnes pouvant effectuer ces avortements, qui apparaît comme moins prioritaire. Que
oui,
le...
et qui pourrait être pourtant une revendication principale, quoi.
Bien sûr, tout comme dans ces années, enfin tout comme il y a 40 ans. Voilà, on a remis le couvercle là-dessus, mais c'était aussi l'idée de notre de ce projet de cycle de projection, de reparler de ces éléments-là, puisqu'on a retenu sur l'avortement, on a retenu que la loi Veil et les débats houleux à l'Assemblée nationale et ces paroles affreuses qui ont été prononcées et archi-sexistes à l'Assemblée nationale. Mais il s'est passé plein d'autres choses avant et c'est pas anodin qu'on n'en parle plus, il me semble, par rapport à cette médicalisation contemporaine.
En tout cas, je pense que c'est intéressant de le dire. Suzanne t'en parlait tout à l'heure en off, quoi, en gros. Mais c'est un, enfin, là pour revenir sur le quatrième documentaire, donc qui est, c'est vrai que bon, ok, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on était en train de dire peut-être, qui est plus sur l'accouchement,
ouais,
et sur quels accouchements, quoi, finalement, et les modalités d'accouchement d'aujourd'hui, quoi. C'est, enfin, la gestation, l'accouchement, etc., sont des thèmes très peu abordés dans les féminismes, on va dire, de manière générale. C'est pas des questions, c'est des questions tout à enfin complètement délaissées et ouais, qui pourtant sont intéressantes et qui devraient être enfin oui, exactement, voilà, les méthodes aujourd'hui d'accouchement devraient être remises en question. C'est pas fait de manière générale groupe de militants, quoi, je pense.
Oui, mais puis je dirais que ça l'a presque jamais été. Enfin, dès la deuxième vague du féminisme, l'idée, c'était de se focaliser justement sur la libre maternité et la remise en cause de la maternité. Mmh.
Ce qui est normal aussi, hein, après
voilà,
tout.
Voilà, donc mais... très logiquement, elles se sont moins focalisées sur l'accouchement. Bon, maintenant, il y a des groupes là qui ont aussi pratiqué des accouchements à domicile. C'était l'objet du film Regarde à la Lise de Grand Ouvert qui faisait avortement et accouchement. Mais il y a eu très peu de réflexions, alors que... dans les années 50, on a commencé à développer de premières méthodes dites alternatives d'accouchement, l'accouchement sans douleur avec le docteur Lamaze, c'était une méthode soviétique. Mais ensuite arrive la péridurale. Là, on est encore sur une question de médicalisation. Et puisque, par ailleurs, en face, les groupes féministes se focalisaient peu sur ces questions, on est arrivé dans le contexte dans lequel on est plus généralement, c'est-à-dire l'idée qu'on n'accouche plus autrement que avec tout un arsenal technique et médical, et surtout avec toujours cette idée très récurrente, une dépossession des corps de femmes, c'est-à-dire que la façon dont c'est pris en charge aujourd'hui et toutes les questions qui étaient posées quand même à la marge dans les années 70 sur la déshumanisation des femmes qui viennent accoucher et les services de maternité, en tout cas, on l'a peu aujourd'hui. Et je comprends l'illégitimité de la question par rapport à la priorité féministe des questions d'avortement et de contraception. Mais c'est aussi faire fi des expériences de femmes aujourd'hui. Les femmes qui avortent sont les mêmes que celles qui accouchent. Et il y a une communauté d'expériences entre tout ça. Donc voilà, c'était intéressant de remettre les deux en dialogue. En gros, les deux pratiques, oui, d'accouchement et d'avortement.
Après, c'est vrai que historiquement, c'est normal d'avoir de lutter, ou encore aujourd'hui, pour une famille, enfin pour une vision aussi de la famille sans enfants, par exemple.
Oui.
Je pense que c'est une question qui est centrale aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que du coup, on délaisse finalement la plupart des familles, peut-être aujourd'hui, je pense quand même, qui sont avec des enfants, quoi.
Et puis même, enfin cette année, on a quand même assisté à l'élargissement, enfin du mariage, mais oui, la revendication est aussi pour une gestation plus large. Et il me semble que c'est quand même incombe qu'on pose pas non plus la question des conditions sociales de mise au monde, puisque on pose cette revendication comme devant s'élargir. Donc il y a tout un paradoxe là-dedans à ne pas vouloir entrer dans le territoire du médical et voir ce qui se passe sur ces naissances qu'on souhaite. Ça reste une revendication sociale. Après, bien sûr on ne doit absolument pas s'éloigner de cette revendication féministe du refus d'enfants ou de cette autonomie par rapport aux enfants. Mais dans l'idée de couvrir largement les expériences de femmes et pas mettre de côté certaines classes de femmes, c'est quand même paradoxal de plus parler, ou je dirais même de pas parler de la grossesse et de l'accouchement. Des expériences dans lesquelles les femmes sont extrêmement isolées aujourd'hui. Et je parle pas de certaines catégories de femmes par rapport à d'autres. C'est-à-dire que l'expérience médicale isole ces femmes et les rend seules responsables de ce qui se passe, avec une forte essentialisation, avec cette idée encore et toujours que puisque le fœtus est dans un corps de femme, elles sont seules avec cette expérience et, ouais, et le médical doit prendre en charge le côté technique. Ouais. Mais il me semble que vraiment sur toute la ligne, on peut faire le parallèle entre avortement et accouchement, oui, encore une fois. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de la méthode Karman et de cette réflexion entre profanes sur les techniques d'avortement. Mais la question mérite d'être posée absolument de la même façon sur une autre expérience qui est celle de l'accouchement. Voilà, c'est l'idée.
Suzanne, il y a un truc qui t'embête. Je sens qu'il y a un truc qui t'embête. C'est peut-être parce que là, on parle d'accouchement. Du coup, on parle d'un ordre,
ouais, ça m'embête,
un ordre de la société, bah, ouais, famille avec enfants.
Ouais,
on parle aussi de femmes cisgenres absolument aussi. Qu'est-ce qui t'embête exactement là ?
Difficile à dire. C'est que j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est difficile à expliquer. C'est presque intuitif. Je sais pas. J'ai l'impression que les luttes. Bon, c'est quoi les luttes féministes? Quelles sont leurs finalités? Je sais pas. Mais peut-être pas seulement savoir ce qu'est un vécu de femme, parce que finalement on va finir par l'essentialiser, ce vécu de femme aussi.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Et c'est ça qui m'embête aussi. C'est du coup qu'on est. Et que malgré tout, à force de répéter ce mot, on finit par être convaincu que les femmes accouchent et enfin bref et enfin ouais, que les femmes enfin bon, bien sûr c'est
que dans le vécu de femme X il faut un enfin il y a forcément un accouchement quoi.
Non mais c'est une perspective qui est certainement biaisée, parce qu'en plus c'est pas du tout en fait je me dis non, c'est pas vraiment que je suis pas d'accord, parce qu'il y a autre chose, il y avait autre chose qui a croisé ma réflexion. C'est ce que je trouve aussi intéressant pour rejoindre cette question de la grossesse, c'est ce qui me frappe pas mal aujourd'hui, c'est que les gens ne le perçoivent pas comme un travail, enfin je veux dire, mm-hmm. C'est-à-dire c'est ça qui me marque plutôt, c'est extrêmement matérialiste de dire ça, mais
non, mais pas du tout, mais du coup c'est pour ça que même ton appréhension, si tu veux, Je l'entends, mais en même temps, une conception en effet matérialiste du monde social qui voit des classes d'hommes et des classes de femmes. Alors bien sûr, on est sur des questions de conjugalité et d'hétérosexualité.
Oui.
Mais en effet, très matériellement, des femmes accouchent, des femmes avortent, d'autres.
Oui, tu as raison.
Ce n'est pas la femme, ce sont des femmes.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc ça, on est très clair là-dessus. Mais du coup, pourquoi t'as parlé de matérialisme déjà?
C'était parce que j'ai eu je réfléchis à plusieurs trucs, et du coup, je voulais aller plutôt dans votre sens, plutôt pour poursuivre la réflexion sur le fait que par exemple, aujourd'hui, des patrons d'entreprises hommes n'embauchent pas des femmes parce qu'elles sont, parce qu'ils ont peur
grossesse. Et on a plus beaucoup de temps, mais si tu veux, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout incompatible. C'est que justement, tu parles de travail des femmes, de travail reproductif, et que cette façon de remettre la grossesse, l'accouchement et tout ce qui va avec seulement dans le domaine médical. Et à la rigueur, une fois que le petit est né, là, ça devient social et bien sympa. C'est une façon, encore une fois, d'isoler les femmes. Et avec cette idée de non-prise en compte et d'invisibilisation totale de la grossesse, auquel le féminisme, d'une certaine façon, participe, puisque c'est pas très féministe de parler grossesse, tu vois.
Oui.
Et donc, ça va toujours dans ce sens, d'un isolement et d'une particularisation des femmes. Et du coup, ce que tu dis là sur... La non-articulation entre travail productif et travail reproductif, et le fait qu'elles sont entre autres pas embauchées ou même virées par des patrons aujourd'hui, on revient toujours à l'idée que la maternité n'est pas vue comme une question sociale, mais essentiellement naturelle ou médicale. Mais elle est reléguée.
Tu as tout à fait raison. Et finalement, on fait un pont entre... Non, mais tu as tout à fait raison.
Mais en même temps, c'est toujours difficile de relier féminisme maternité. Non, on est encore sur un
maternité, c'est-à-dire pas forcément, c'est-à-dire comme tu dis, grossesse, travail reproductif, puisque oui, ça fait partie
au sens social.
Au sens social, d'enjeux réels. Enfin,
voilà.
Bien sûr.
C'est cette idée de.
Ouais. Je te rejoins entièrement.
Bon. Alors, c'est bon. Est-ce que tu m'as entendu?
Oui. Est-ce que tu lis. Je crois que tu avais un texte à nous lire.
On a le temps de
peut-être terminer là-dessus.
Voilà, c'est ça. Il reste quelques minutes.
Donc, on va quand même terminer sur l'avortement en bonne féministe que nous sommes. oui, alors c'est un texte d'un MLAC de 73 qui est assez intéressant. Alors, assez rapidement, je le lis. Nous ne sommes pas parvenus à dédramatiser suffisamment l'avortement, à en faire un acte médical banal, comme la méthode Carman, pratiquée légalement, le permettra. Mais surtout, les conditions de clandestinité dans lesquelles nous fonctionnons ne permettent pas de déculpabiliser l'avortement et empêchent la femme de se prendre en charge au cours de l'acte. Se prendre en charge. La plupart des obstacles à cette prise en charge ne viennent pas des conditions de fonctionnement de notre filière elle-même, mais bien de la clandestinité générale qui entoure l'avortement dans notre pays. Alors, l'idée, c'était de voir que dans ce texte, ces médecins et femmes engagées identifient la clandestinité comme la cause de l'impossible dédramatisation et désacralisation de l'avortement. Et il me semble que ça peut faire écho à la situation actuelle en nous demandant si est-ce qu'il y a banalisation de l'avortement, est-ce qu'il y a dédramatisation, quand bien même il n'y a plus clandestinité de l'avortement. On se rend compte qu'en fait on est dans des représentations patriarcale bien bien ancrée et que c'est pas qu'une question de clandestinité de l'avortement
Finalement c'est pas le progrès technique qui règle une des questions sociales quoi finalement enfin et, si voilà, et non
si mais c'est, enfin
elle
en
règle
cas,
le problème de la dangerosité de l'avortement clandestin
mais faut pas l'idéaliser en pensant que c'est la solution voilà.
Mais elle pallie pas au fait qu'il y a un problème de représentation de la gestation de la femme
clairement
etc.,
et que et vu comment aujourd'hui la contraception est vue comme avant tout un moyen d'éradiquer c'est le mot qui est utilisé l'avortement on a bien toujours l'idée que avorter c'est un droit concédé aux femmes. C'est un dernier recours, il doit être unique cet acte, mais il est certainement pas légitime comme moyen de contrôle des naissances encore actuellement, et c'est-à-dire encore une fois 40 ans après le vote de cette loi.
Ouais, tout à fait.
Et d'ailleurs, pour finir sur ça, je pense qu'on arrêtera. Finalement, pourquoi l'avortement est encore diabolisé quand même d'une certaine manière et pourquoi on dit qu'il faut qu'un seul avortement c'est par peur de perdre une certaine fécondité quoi il me semble.
Oui, on en revient toujours au-delà de la fécondité je veux dire au sens technique et sanitaire, il y a certainement l'idée une croyance tellement forte en l'instinct maternel que tout avortement viendrait à chaque fois remettre
nature,
en cause cet instinct. Et marquer durablement les femmes, les traumatiser moralement. Donc voilà, il y a autant des enjeux physiques, il ne faut pas toucher à ces utérus, on risque de les mettre en danger pour une prochaine gestation. Mais il y a aussi cette idée, cette psychologisation de l'avortement qui va avec avec la dramatisation.
Voilà, on a essayé d'essayer de traiter un max de questions. Ça a été un peu difficile, quoi, mais j'espère que ça aura plu à tout le monde. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou ailleurs si vous avez des questions ou des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord qu'on aurait pu dire aujourd'hui.
Exactement. Et on va vous mettre en lien les documentaires, les documentaires. On va vous mettre en lien le streaming de Regarde, elle a les yeux grands ouverts.
Ouais, et puis il y a Histoire d'A aussi qui est disponible. Là, je crois qu'on contre, je crois que c'est 3 € pour visionner.
3 € pour visionner, quelque chose comme ça. On vous mettra les liens sur la page de Jean Rage, la page Facebook de Jean Rage et sur le site Retrouvez-nous sur les ondes. En attendant, plutôt on va se dire au revoir.
Oui.
Et à dans 2 semaines.
Et à dans 2 semaines, merci beaucoup Lucille.
Merci.
D'avoir été.
Merci à vous.
Salut.
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 Thank you.